France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Si je compte bien, 1, 2, 3, 4, 5, 5 disques en 2021. Oui, Leonardo Garcia Larcón a participé à 5 enregistrements qui sortent cette année. Il y a eu Rebirth avec Sonia Yoncheva, les Madrigaux de Sigismondo d'India paru en juin. Voici L'Orfeo de Monteverdi, en attendant un disque de sonate pour violon de Bach et même un disque Piazzolla, sans compter bien sûr les concerts, les productions d'opéra. Bonjour Leonardo Garcia Larcón.
Bonjour Jean-Baptiste.
Vous n'avez pas le tourné?
Comment?
Vous n'avez pas le tourné?
Ah oui, je connaissais pas les termes. C'est quelque chose, bon, je ne savais même pas, je n'avais pas compté les disques en fait, ça a dû être sûrement à cause de tous ces arrêts justement que les disques qu'on a enregistrés sortent et qu'on a eu la possibilité surtout d'enregistrer.
Oui. Vous n'êtes jamais fatigué?
Ah oui, 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 absolument.
Vous dormez peu, hein. Je me souviens que vous avez déjà dit ça au micro.
Oui, je dors très très peu. Mais c'est surtout, bon, difficile quand on vit une grande intensité, c'est-à-dire soit des concerts ou des répétitions, la musique reste dans la tête. Et si vous lisez des partitions aussi, l'aspiration c'est souvent la nuit pour des nouveaux manuscrits ou des nouveaux projets. Alors, mais j'ai la sensation que je me repose aussi. Quand je suis en train de travailler de cette manière.
Vous craignez parfois d'en faire trop?
Non, parce que quand on quitte une famille, des amis au-delà de l'océan, ça veut dire que j'avais 19 ans. À ce moment-là, je me suis dit...
En Argentine,
hein. Je
rappelle que vous venez d'Argentine.
De l'Argentine, exactement. On part faire de la musique et vivre notre passion de la meilleure manière. Et c'est une deuxième vie, d'une certaine manière, la vie que j'ai vécue ici en Europe. Et même si maintenant on est avec ma femme, on a 2 enfants et on se sent plus enracinés dès le moment où ils sont là, c'est vraiment un choix de vie qui n'est pas du tout un choix à la base, parce qu'être musicien n'est pas du tout un choix, c'est presque une maladie. Et c'est pour cela que je ne les trouve pas comme un travail et je ne trouve pas que je dois arrêter ou me conduire d'une autre manière en relation à la musique. C'est un besoin.
Ne vous soignez pas, surtout gardez cette maladie d'être musicien. Leonardo Garcia Larcón, dernière question sur ça. Est-ce que vous avez eu, vous qui êtes donc quand même assez actif, voire hyperactif, vous avez eu un sentiment de vide pendant les arrêts de concert ou ça vous a permis de peut-être remettre le nez dans les partitions? Est-ce que vous avez eu une prise de conscience pendant ces 18 mois où il y a eu moins, voire pas du tout, de concerts et de public?
Absolument. C'était, je pense que pour tous les musiciens, c'était une manière de revenir à la source du besoin musical. Ça veut dire que simplement les besoins du son et de la musique réelle étaient quelque chose qu'on n'arrivait plus à se demander. Ça veut dire qu'on était dans un mode automatique, je trouve. Soit dans des tournées, dans la production de concerts, dans les voyages, et tout cela. À ce moment-là, quand tout s'est arrêté et on n'a plus fait de la musique, on a ressenti tout de suite les silences comme un outil qui est indispensable pour que la musique existe. Ces silences qui a commencé à exister autour de nous, et surtout ces silences où le public nous réclamait, et presque avec des cris, revenez, on a besoin de cela. Et nous qui quand même jouons de la musique, mais sans ce public, on a compris tout de suite que cette respiration nous manquait et qu'il y avait un paramètre où on n'était pas du tout conscient. Notre musique s'est nourrie du public, de ce souffle, de cette respiration.
Retour aux sources, retour à Monteverdi.
Thank you.
il m'avait conseillé.
Alors, le début de l'Orfeo de Monteverdi, un toccata si célèbre, le prologue, avec la voix de Mariana Flores, qui est aussi votre femme que vous évoquiez, hein, et Leonardo Garcia Larcón, notre invité, avec la Capella Mediterranea. Et puis, on ne l'a pas entendu ici, mais il y a également le chœur de chambre de Namur, c'est le tout début de l'Orfeo de Monteverdi. C'est une œuvre un peu fondatrice, on peut dire, Leonardo Garcia Larcón, on dit souvent c'est le premier opéra, en tout cas c'est le modèle fondateur de l'opéra. De but en blanc, en quoi c'est cette musique est révolutionnaire, en quoi c'est un moment marquant dans l'histoire de la musique?
Bon, vous savez qu'en 1600, ça veut dire quelques années avant cet Orfeo, des personnalités extraordinaires comme des chanteurs ou compositeurs comme Caccini avaient dit quelque chose de fondamental, ça veut dire les contrepoints et les fruits du diable. Et sur ces concepts, il a commencé à construire l'opéra. Ça veut dire que l'opéra et le recitar cantando, ça veut dire une personne qui chante et qui récite un texte en s'accompagnant ou avec un seul instrument, c'était la seule manière de pouvoir incarner un personnage. Alors, dès ce moment-là, il exclut les madrigals, ça veut dire les pièces où il y a plusieurs voix, il exclut les grands chœurs, et Monteverdi, au contraire. Ça veut dire qu'il crée une pièce, que c'est cet Orfeo, qui contient absolument tout ce qui existait. Et jusque-là, ça veut dire qu'on a des chœurs à sept voix, on a de recitar cantando dans tous les styles, on a l'ancienne manière de chanter avec un tactus fixe, ça veut dire avec un tempo fixe, avec des ariosos, comme au XVIe siècle, et on a le nouveau style qui incarne la messagera, qui annonce la mort d'Eurydice, ça veut dire le nouveau style de lamentation aussi d'Orfeo dans le cinquième acte. Alors, on a tous les styles qui existaient à l'époque. L'Orfeo contient absolument tout et c'est dans cela qui est révolutionnaire. Et c'est pour ça qu'on considère que c'est le premier opéra. Parce que les premiers opéras qu'on connaît de 1600 ou 1602, c'est des pièces qui sont seulement pour une voix, deux. Il n'y a même pas de duo d'amour, et cela va apparaître beaucoup plus tard, comme on sait.
C'est Rossi notamment, on en reparlera tout à l'heure.
Absolument.
Cet Orfeo de Monteverdi, vous l'avez beaucoup joué en concert, en spectacle, avant de l'enregistrer. Comment il a mûri en vous?
Alors, je l'ai joué avec Gabriel Garrido en 2001 au Théâtre Colón de Buenos Aires.
Il y a 20 ans.
Exactement.
Vous aviez 25 ans.
Exactement. C'était une expérience inoubliable déjà. Ça veut dire la manière de l'ensemble et l'image, justement, et en Argentine, c'était Victor Torres, un chanteur formidable qui incarnait vraiment l'Orfeo en baryton. Et cette manière de Gabriel comme flûtiste et comme quelqu'un qui connaissait vraiment très très bien le 16e siècle, et la manière avec laquelle il traitait cette pièce comme une pièce madrigalesque, je pense que moi, comme jeune musicien, ça m'a marqué pour toujours. Et ce disque, qui reste un des sommets du disque, de l'histoire du disque, qui est extraordinaire, avec Maria Cristina Kier aussi, comme musica dans l'Orfeo, ça m'a marqué. Et le faire au Théâtre Colón, c'était aussi quelque chose de fondatrice. Plus tard, j'ai compris que quand même l'Argentine, et Buenos Aires surtout, avait vécu, même par exemple, grâce à Ansermet,
Ernest Ansermet,
le grand chef de l'orchestre de la Suisse romande, car en effet, il a dirigé cet orchestre. Il avait dirigé l'Incoronazione di Poppea, et l'Orfeo, même Ulysse, à Buenos Aires. Ça veut dire que c'est un pays qui a connu comme même Orfeo plus tard. C'était Michel Corbeau, comme on le sait, qui est allé dans les années 70, même pour les Vespres, pour l'Orfeo. Plus tard, Jacobs, je l'ai entendu quand j'avais 15 ans pour l'Incoronazione di Poppea. C'est un pays qui est vraiment associé à cette musique et à cette manière de faire la musique. Et Gabriel Garrido lui a donné des nouveaux timbres. Et c'est cela qui est d'une certaine façon a mûri pendant ces 20 ans. Ça veut dire qu'à l'intérieur de moi-même, comme ça arrive à tous les musiciens, j'entendais une autre musique.
Donc la graine a été plantée très tôt chez vous, cette graine Monteverdi, mûrir et puis plonger dans la partition et faire des choix d'interprétation. C'est votre métier, c'est votre job de se dire combien je vais mettre de chanteurs, quel tempo, quel effectif d'orchestre. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la partition de l'Orfeo de Monteverdi, Leonardo Garcia Larcón?
Alors, la partition vous indique quand même beaucoup de choses. On ne sait pas si elles ont été appliquées à l'époque, parce que on ne connaît pas dans quel espace on a joué vraiment cet Orfeo. Parce que si déjà on applique l'orchestre qu'il nous décrit, on ne sait pas comment ces musiciens arrivaient à entrer là. Et en tout cas, les couleurs qu'il utilisait pour décrire l'univers pastoral sont très très clairs. Ça veut dire un univers d'instruments à cordes avec des flûtes et accompagné par de pizzichis, ça veut dire de théorbes, des archiluts. Tout cela est très très bien décrit dans la partition. L'univers des enfers, bien sûr, avec des cornets et des sacboutes. Ça nous donne vraiment aussi l'ambiance polyphonique, mais surtout les timbres, l'idée des timbres, qui est accentuée aussi par la régale, qui est un instrument qui décrit d'une certaine façon à quel point la voix d'un monstre comme Caronte dans la porte des enfers peut recevoir de cette manière avec un timbre qui vraiment fait peur. C'est-à-dire cette recherche du timbre, on la retrouve seulement au XVIIIe siècle, si on se rend compte. C'est-à-dire Monteverdi, il est unique au XVIIe parce qu'il demande à chaque moment quel instrument doit accompagner une voix.
On écoute encore un extrait.
Allez. Absolument.
C'est l'Orfeo de Monteverdi, c'est l'Orfeo de Leonardo Garcia Alarcón. Il vient de sortir chez Alpha Classics.
Thank you.
C'est un Orfeo qui fera date, qui paraît chez Alpha Classics, celui de notre invité ce matin, Leonardo Garcia Larcón, extrait de l'acte 1. On a entendu la voix de Julie Rosé, on a entendu le chœur de chambre de Namur et la cappella Mediterranea. Un Monteverdi peut en cacher un autre, puisque on retrouve ce chœur et votre orchestre demain à Massy, à l'Opéra, et dimanche à l'Auditorium de Radio France, à quelques dizaines de mètres de là où on parle. Ce sera les Vêpres de la Vierge. Leonardo Garcia Larcón, nous abordez ces Vêpres et Orfeo avec le même regard, avec la même oreille.
En fait, ils sont contemporains. C'est des pièces en miroir, en fait, l'Orfeo et les Vêpres. Les Vêpres, c'est une pièce à géométrie variable où le compositeur a choisi des différentes pièces qu'il composait pour l'église, mais aussi des concerts spirituels, ça veut dire de la musique qui peut être jouée aussi, pas seulement à l'église. Mais il a fait un choix de tout ce qu'il avait composé à Mantova, justement à ce moment-là, et c'est devenu ses Vespro, qui était une pièce aussi offerte au pape, même s'il n'y a pas eu une réaction à Rome, et au moment où on a offert cette partition, et plus tard, ça, la réaction, c'était que Monteverdi a été, s'est dirigé à Venise et pas à Rome, et il a fini par être vraiment maître de chapelle à San Marco à Venise. Mais cette pièce, d'une certaine façon, pour moi, je la vois très associée à la messe en si mineur de Bach. Ça veut dire que au XVIIe siècle, les Vespres, c'est d'une certaine façon, à ce moment-là, il avait fait un choix de tout ce qu'il avait composé. Et en musique sacrée, comme Bach fait dans la messe en si mineur, qui d'une certaine façon, c'était des pièces écrites généralement en allemand et qu'il parodie en latin, mais il choisit d'une certaine façon ce qu'il veut qu'on entend comme sa musique sacrée dans le futur. Monteverdi va le faire à la fin de sa vie avec la Selva Morale, aussi que c'est un recueil des pièces sacrées, mais c'est Vespro qui utilise plus ou moins les mêmes instrumentariums que l'Orfeo, et d'une certaine façon, c'est justement son miroir en sacré.
Et si on vient à la radio, à l'Auditorium de Radio France, dimanche à 16h pour écouter vos Vêpres, on va voir qu'il y a une spatialisation. Vous avez les musiciens, oui, le chœur, qui sont un peu éclatés partout dans,
oui,
l'Auditorium.
Après avoir joué soit avec Capella Mediterranea ou avec les ensembles de la maison, avec l'orchestre et le chœur, on s'est rendu compte que vraiment l'acoustique, elle est extraordinaire, comme vous le savez, et que on peut utiliser tous les espaces pour faire de la musique. Alors, on va justement imaginer qu'on est dans une basilique et on aura même, nous, des surprises pour pouvoir faire de la musique à cette distance. Mais bon, j'aime bien les risques.
Et puis c'est aussi un sacré défi pour nos preneurs de son à Radio France, mais ils sont forts. On enregistrera ce disque, ce concert, et il sera diffusé bien sûr sur France Musique. Allez, pour se nettoyer, il y a toujours un petit peu de Jean-Sébastien Bach. C'est un disque qui sort prochainement. Voici un tout petit extrait. C'est un disque qui sort le 12 novembre, mais on en avait un petit extrait comme ça. Chouchane Cyranocian au violon, Balazs Maté au violoncelle et Leonardo Garcia Larcón au clavecin dans cette sonate de Jean-Sébastien Bach, sonate pour violon, quatrième mouvement, la sonate 1021 en sol majeur. Vous aviez un petit peu de temps, donc vous avez fait un disque Bach.
Oui, à l'Auditorium de Dijon avec deux musiciens que j'admire énormément. Et Chouchane Cyranocian, bon, c'est une violoniste que d'une certaine façon j'ai découvert les dernières années, et Ça faisait longtemps qu'on voulait se rencontrer parce que vraiment la manière avec laquelle elle aborde la musique de Johann Sebastian Bach m'a interpellé toujours. C'est-à-dire, je suis un enfant qui est né avec des disques de Reinhard Gebel, musique antigua Köln, ou Koiken, si c'est Koiken, avec la petite bande. Et j'ai trouvé que chez elle, il y a vraiment un mélange des écoles, de plusieurs écoles du XXe siècle. C'est-à-dire une puissance technique et unique, en plus de cette graine de Gebel, c'est-à-dire de ces violons baroques allemands, plus la souplesse de cette école de Koiken, et plus sa propre personnalité. Alors, c'était extraordinaire.
L'Opéra de Dijon, vous avez enregistré ce disque. Vous serez d'ailleurs prochainement pour un opéra de Haydn, l'Isola d'Isabibata, l'île déserte. Vous quittez l'Opéra de Dijon, c'est la fin d'une résidence pour vous? Ou pas?
Alors, je ne sais pas.
D'accord. Non, parce que ça a été le cas de David Grimal, qui nous en parlait au micro il y a peu de temps avec son ensemble Les Dissonances, qu'il a appris un peu de façon brutale. Vous, a priori, vous continuez, vous ne savez pas. Il y a un changement de direction à Dijon, c'est pour ça que tu poses la question.
Il y a un changement, oui. C'est vrai que j'ai pas abordé cette question avec personne et pas avec moi-même non plus. Alors,
bon, vous êtes bien à Dijon,
ça veut dire que vous savez les belles choses qu'on a fait à Dijon, la Finta Pazza, le Prometeo, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire.
Et puis, donc,
mais aujourd'hui, maintenant, j'étais invité pour diriger l'Isola Disabitata de Haydn. Et la passion selon Saint-Mathieu qu'on fera l'année prochaine. Alors j'espère qu'on pourra continuer à créer.
Voilà, c'est dit, on verra. Fin novembre, début décembre, Haydn avec cette île déserte. Moi je le dis en français, comme ça j'ai pas la honte avec mon accent italien. Justement, à propos d'Italie, et vous l'avez créé à Dijon, je voudrais quand même qu'on finisse avec cet opéra de Rossi que vous avez redécouvert, que vous nous faites redécouvrir. Ça a été à Dijon, mais sans public l'année dernière. Ça vient d'être à l'Opéra de Lorraine. Ce sera à Versailles début décembre. C'est Il Palazzo Incantato. De quoi s'agit-il? Comment vous l'avez découvert, redécouvert?
Alors, c'était en 1999. Je venais d'arriver en Europe et je suis allé à la bibliothèque du Vatican. J'avais demandé une permission pour étudier des partitions de Marco Marazzoli et Luigi Rossi. Et quand le bibliothécaire m'a amené un des trois livres, parce qu'on peut demander seulement trois le matin et trois l'après-midi, j'ai reçu cette Palazzo Incantato. Et quand j'ai vu la partition avec des fois trois chœurs, 22 solistes, double orchestre, je me suis dit, bon, un jour, peut-être à ma retraite, je pourrais écouter cette musique. Ah non, c'est arrivé maintenant. Ça veut dire qu'à l'Opéra de Dijon, justement, on a eu la chance de pouvoir créer cela en coproduction avec Nancy. Et c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir pu justement vivre dans ces palais d'Atlante. C'est un magicien qui a décidé d'enfermer toutes les personnes qui ressentent un désir. Et il y a toutes les histoires que vous pouvez imaginer, mais c'est simplement la manière de pouvoir créer un monde magique, unique, où toutes les formes musicales existent, et surtout connaître plus de Luigi Rossi, où on connaît en France, grâce à Raphaël Pichon, notamment dernièrement, son Orfeo de 1646.
Et donc ce Rossi qui sera donné à nouveau à Versailles, j'espère qu'il y aura un disque pour ceux qui peuvent pas être à Versailles, en Lorraine, à Dijon, espérons, contrairement à l'Orfeo d'ailleurs, ça n'a pas été joué depuis la création quasiment.
Exactement, depuis 1642, avant l'incoronazione di Popea.
On aurait pu aborder plein de choses, Leonardo Garcia Alarcón, mais vous faites beaucoup de choses. D'ailleurs, vous êtes trois en fait. Il y a trois Leonardo Garcia Alarcón. En tout cas, vous serez demain à l'Opéra de Massy et dimanche à la Maison de la Radio et de la Musique pour ces Vêpres de la Vierge de Monteverdi. L'Orfeo vient de sortir et on va se quitter avec un autre disque dont on reparlera plus tard. C'est Astor Piazzolla, l'Argentin.
Oui, avec William Sabatier, bandoneoniste extraordinaire et l'orchestre de Bourgogne.
Oblivion.
À réécouter sur francemusique.fr.